France Culture.
Qu'il est très difficile de faire un pronostic. Et il y a des anciens adhérents qui reviennent, environ 30 000, mais quasiment autant qui sont des nouveaux adhérents. Et donc, comment savoir pour qui ils vont voter, d'où ils viennent? Est-ce que ce sont des zémouristes, par exemple, qui se sont inscrits pour intervenir dans l'élection de LR? On ne le saura que plus tard.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les Républicains est à la croisée des chemins à la fois présents au gouvernement par notamment Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, et tenté de récupérer l'espace, si tant est que cet espace existe, créé par cette incertitude liée à l'inéligibilité prononcée contre Marine Le Pen?
Oui, c'est probablement ce qui incite les deux candidats à miser sur une récupération de l'électorat ou d'une partie de l'électorat du Rassemblement national, c'est certain. Mais il faut quand même savoir que là, il y a 100 000 adhérents environ avec les nouvelles adhésions.
Ils ont revendiqué 121 000, les dirigeants de l'ère.
Oui, ça a augmenté. Bon, je n'avais pas lu directement c'est ce l'inflation. Matin, donc il y a eu beaucoup de nouvelles cartes ce matin, hier. Dans les derniers jours, je veux dire. On est loin des 350 000 de 2007. Toute une partie des adhérents de type libéraux, favorables à l'Europe, jupéistes, sont partis et ils se retrouvent plutôt derrière Édouard Philippe. Là, le choix a été fait de viser effectivement l'électorat perdu du côté des nationalistes, du côté de l'extrême droite, en profitant de une espèce de fenêtre d'opportunité, pourrait-on dire, avec les difficultés de Marine Le Pen, mais aussi les difficultés d'Éric Zemmour, puisque Marion Maréchal Le Pen a fait une scission dans son parti.
Merci Gilles Richard, pardon, le temps nous manque. Merci d'avoir été notre invité dans ce journal de France Culture, professeur émérite, je le rappelle, d'histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Un mot de météo pour vous dire que les orages arrivent cet après-midi sur l'île de France, la Seine-Maritime, les Pays de la Loire et le centre-val de Loire. Temps pluvieux sur la vallée du Rhône, la Bretagne, les côtes de la Manche, soleil en Corse, en Alsace et en Franche-Comté, de 17 degrés jusqu'à 23 cet après-midi à Paris.
Vous écoutez France Culture. La romancière et poétesse Cécile Coulon partage et commente avec nous les poèmes qui accompagnent sa vie. Comment les poètes et les poétesses ont-ils écrit sur la nature? Comment les paysages ont-ils nourri les plus grands textes de la poésie française? L'instant poésie de Cécile Coulon, tous les soirs en semaine à 21h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Une expérience immersive à écouter au casque.
Née esclave dans les années 1820 aux États-Unis, elle réussit à s'évader avant d'aider de nombreux autres esclaves à en faire de même. Militante abolitionniste, antiraciste et féministe, voici l'histoire d'Harriet Tubman. Une histoire particulière. Harriet Tubman, la Moïse noire de l'Amérique, de Michel Pomarède, réalisé par Jean-Philippe Navarre, ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Midi 46 sur France Culture et tout de suite c'est Signe des temps avec Marc Weitzmann. Bonjour Marc.
Bonjour Alexandre.
Signe des temps, Marc Weitzmann.
Et bonjour à tous. On a fêté hier le 44e anniversaire de la déclaration de François Mitterrand, de la victoire électorale de François Mitterrand qui portait la voix de la gauche au pouvoir et surtout à l'Élysée, un président que l'on disait amoureux des livres et comme il allait le montrer, l'homme politique le mieux à même d'incarner la fonction présidentielle et son aura monarchique telle que la France et la 5e République le définissaient. 4 ans plus tard, cependant, en 85, le même Mitterrand devenait le président branché d'Yves Mourouzi sur TF1, puis lançait en 87 la carrière politique de Bernard Tapie, entrepreneur et animateur de télévision. Tapi devint ministre de la Ville en 93, un an avant que de l'autre côté des Alpes, un autre homme de télévision, Silvio Berlusconi, ne se lance en politique, ouvrant une nouvelle ère. Comment, depuis 81, l'idée que nous nous faisons d'un candidat à la présidence de la République a-t-elle évolué? Pourquoi un homme comme le François Mitterrand de 80 ne pourrait-il plus faire campagne à l'âge de Donald Trump et de Vladimir Zelensky, tous deux consacrés au-delà de leurs différences par la télé-réalité, porté par ce que l'on nomme le populisme, mais au-delà de lui, à quelle transformation radicale des critères qui font un candidat à la présidence d'un pays sommes-nous en train d'assister? Pour en parler aujourd'hui, j'ai demandé à Christian Lebar d'être ici. Christian Lebar est l'auteur d'un petit livre sorti en janvier qui s'appelle « Présidentiable ». Christian Lebar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Rennes et au laboratoire à Rennes, politologue. Vous avez écrit plusieurs livres, dont « La politique à l'envers », »,« Essai sur le déclin de l'autonomie du champ politique » en 2024, « Les émotions du pouvoir, larmes, rires, colère des politiques » chez Armand Collin en 2018. Et donc, ce petit livre, sorti en janvier dernier, plein de pistes très intéressantes pour essayer de comprendre l'époque présidentiable, avec un point d'interrogation. Et Blanche Le Ridon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice éditoriale à l'Institut Tu Montaigne, vous êtes essayiste, vous avez écrit un livre qui n'a absolument rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, Le château de mes sœurs, des Brontë aux Kardashian, enquête sur les fratries féminines l'année dernière, mais vous avez aussi écrit un article dans Libération sur le livre de Christian Lebar paru la semaine dernière, et c'est à vrai dire cet article qui a attiré mon attention à la fois sur le livre et qui m'a donné l'idée de cette émission. Alors Christian Lebar, je vais commencer par vous. Votre livre, il se compose en deux parties. La première partie, c'est un rappel rapide de la situation qui n'est plus la nôtre en fait, c'est-à-dire l'histoire du suffrage universel d'abord testé en 48 puis instauré définitivement par le général de Gaulle, et vous rappelez la complexité du rôle présidentiel défini par la Constitution de 58 et revue en 62, ce que vous appelez le caractère insaisissable de la présidentialité, la présidentiabilité même, qui tient beaucoup à l'ambivalence des projections que la Ve République a construites autour de cette figure clé de voûte des institutions. Je vous cite, le président ne fait pas que présider et incarner, il gouverne, associant de la sorte deux fonctions que par comparaison les régimes parlementaires prennent soin de séparer. Cette surcharge est tout à la fois inscrite dans le texte constitutionnel de 58 et dans une jurisprudence des pratiques initiées par de Gaulle, et c'est une surcharge vous ne le dites pas dans le livre, mais qui est contemporaine aussi de la bombe atomique, et donc du fait que le pouvoir présidentiel se double d'un pouvoir militaire et technologique inédit dans l'histoire. La cinquième veut vraiment instaurer la sélection partisane des candidats présidentiables, une tradition qui va se perpétuer jusqu'à la fin des années 90.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, bon, le régime de 1958, évidemment, introduit une rupture forte, qui plus est avec la réforme de 1962, donc élection du chef d'État au suffrage universel direct. Et donc, on construit cette problématique, cette interrogation. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel est ou n'est pas présidentiable, c'est-à-dire tout à la fois capable de gagner l'élection, De triompher dans la compétition, mais aussi capable de gouverner le pays, en particulier dans le contexte qui est celui de la guerre froide, qui est un contexte sur lequel, évidemment, on projette beaucoup d'attentes s'agissant du chef d'État. Et c'est vrai, dans un premier temps, c'est les partis politiques qui ont quasiment le monopole de la fabrication des présidentiables et des candidats. Hein, on dit des chefs de parti qu'ils sont des candidats naturels, quasiment.
Oui, vous rappelez que vous avez une formule, vous dites c'est un système qui s'entretient. Si d'un côté les partis, si ce sont bien les partis qui font l'élection présidentielle, la réciproque est vraie aussi. La présidentialisation du régime contribue à la présidentialisation des partis. L'un des exemples le plus flagrant, évidemment, c'est le Parti socialiste au Congrès d'Épinay en 71 où François Mitterrand s'impose et où le parti va devenir la machine Chine qui va le porter au pouvoir. Mais pratiquement, tous les à droite, ça fonctionne à peu près de la même manière aussi, en particulier chez les gaullistes. Il y a un exemple un peu différent qui est, vous dites, le cas de l'extrême gauche, où la figure loin de la figure naturalisée du chef incontesté, vous dites, le candidat apparaît davantage comme porte-parole du parti, militant exemplaire désigné par celui-ci, ne pouvant se dérober. Mais en réalité, c'est une sorte de mise en scène, puisque dans les partis du Parti communiste au parti d'extrême gauche, le candidat est seul en réalité. C'est le chef du parti.
Oui, il faut rappeler quand même que toute la gauche est hostile à la réforme de 1962,
oui.
Et que l'idée de désigner le chef d'État par le suffrage universel, ça suscite de très très fortes réactions. Et c'est intéressant de voir que, effectivement, en quelques années, tout le monde va s'y mettre et les partis vont s'aligner sur la logique présidentielle en tolérant en leur sein des leaders partisans qui seront de ce fait même des candidats d'évidence, ce que les médias appelleront des candidats naturels à même de représenter leur parti.
Mmh. Alors, Blanche Le Ridon, à partir de... Est-ce qu'il y a un moment où on peut dater le moment où... est-ce qu'on peut dater le moment où les partis cessent d'être considérés comme complètement légitimes? Christian Lebar dit qu'à un moment donné, d'avant-garde éclairée, le parti devient simple organisateur et arbitre d'une compétition qui lui échappe après l'instauration des primaires en particulier.
Simple organisateur et même aujourd'hui, j'ai envie de dire, parfois fardeau. Et on voit la multiplication des entreprises personnelles, la candidature même d'Emmanuel Macron ayant créé un précédent en la matière, a tendance désormais à assimiler la structure partisane à une structure un peu lourde qui inhibe et qui empêche plus qu'elle ne permet aux velléités personnelles des uns et des autres de s'affirmer. Alors pour le dater précisément, y a bien sûr de 2017 qui marque une très grande rupture, mais les partis étaient déjà un petit peu affaiblis avant cette date. Mais c'est vrai que ce qui est frappant à la lecture du petit livre passionnant de Christian Lebar, c'est de voir à quel point toutes ces autorités qui ont donné la légitimité et qui ont créé ces verdicts de présidentiabilité, cette légitimité, elle s'efface aujourd'hui. On le voit si on regarde dans les chiffres du Cevipof de Sciences Po, la confiance des Français à l'égard des partis politiques, on est au plus bas dans l'échelle de la confiance accordée aux institutions dans leur ensemble, à 16%. Donc on voit bien que les Français n'attendent plus non plus des partis qu'ils soient ceux qui érigent et qui construisent cette présidentiabilité pour la simple raison qu'ils ne sont plus jugés comme efficaces, comme légitimes et comme crédibles. Donc là, on est à un moment un peu particulier. Vous avez mentionné 81, c'est vrai qu'on oublie un petit peu ce qu'on pense à 62, mais on va fêter en décembre les 60 ans de la première élection présidentielle au suffrage universel direct, donc qui était celle de 65. Donc ça nous donne 60 années de recul sur l'évolution de cette figure du présidentiable. Et là, on a deux échéances dans les semaines qui viennent, à la fois du côté des Républicains qui vont essayer de réaffirmer en quelque sorte leur leadership avec leur congrès et l'élection de leur nouveau président. Et puis quelques semaines plus tard, la même chose du côté du Parti Socialiste. Est-ce que ces deux échéances vont réussir à redonner une forme de légitimité au parti et à construire, à commencer en tout cas à la construction de ces figure présidentielle que pourraient être les gagnants dans un cas ou dans l'autre. Là, tout reste à prouver. Mais c'est vrai qu'on a un affaiblissement notable de ces partis-là et donc une tendance à aller plutôt vers des entreprises personnelles et la disparition du parti au profit du mouvement, de structures plutôt gazeuses beaucoup moins construites, organisées, pérennes que n'étaient les partis traditionnels tels qu'on les a toujours connus.
Christian Lebar.
Oui, l'exemple vraiment intéressant d'un point de vue historique, c'est l'exemple de Michel Rocard. Pour illustrer ce que disait Blandine Le Ridon, Michel Rocard, quand même personnalité parmi les personnalités préférées des Français, mais qui en même temps ne réussit pas à s'imposer à l'échelle du Parti socialiste et qui du coup n'ose pas franchir le pas. C'est-à-dire, il renonce par deux fois à la candidature. Et on serait aujourd'hui, j'ai envie de dire, Rocard ne s'emmerderait pas avec les congrès du PS. Mmh. Il irait directement, il serait candidat, et puis voilà. Et la popularité qui était la sienne à l'époque suffirait pour que il puisse être considéré comme un présidentiable sérieux.
Alors ce que vous, une des origines de la crise à laquelle on assiste, en tout cas en France, telle que vous la pointez, en tout cas, c'est l'instauration des primaires et en particulier des primaires ouvertes pour répondre déjà à un problème de légitimité qui commençait à naître. L'idée que même les sympathisants puissent décider qui est le candidat d'un parti aurait contribué à affaiblir en fait le pouvoir même des partis dans la désignation des présidentiables. Mais le grand tournant, c'est quand même les années 2010, c'est-à-dire que vous citez l'exemple de Jean-Christophe Cambadélis au PS, de Christian Jacob à LR en 22, 10 ans plus tard, qui sont réduits au rôle d'organisateur d'une compétition à laquelle ils ne participent plus. Nicolas Sarkozy, qui en 2017 a cru qu'il triompherait de la primaire à droite en s'emparant au préalable du parti dans une tradition qui était vraie en 2007, mais qui avait cessé de l'être 10 ans plus tard.
Oui, c'est ça. Faut bien avoir en tête les querelles de leadership hein, à la tête des grandes formations de droite et de gauche. Hein, Ségolène Royal contre Martine Aubry, Jean-François Copé contre François Fillon. Les conflits étaient vraiment très très forts. Donc la direction d'un parti a cessé d'être la ressource d'évidence qui permettait de s'imposer comme candidat. Et du coup, on est allé la solution qu'ont trouvé les partis, ça a été d'essayer de recourir aux primaires, d'abord fermées, puis ensuite ouvertes, ce qui était une façon de faire profil bas, de s'auto-dessaisir hein, d'une certaine façon, de dire puisque la marque partisane en tant que telle, issue du Congrès, des jeux d'appareil, ne suffit plus à faire le candidat, le candidat on va lui donner une onction démocratique à partir d'une primaire ouverte. Ça a marché pour François Hollande, le problème c'est que ça n'a pas marché pour les autres, ça n'a plus marché ensuite. Donc on se retrouve un petit peu dans une situation d'incertitude. Et pour faire écho à ce que vous disiez dans le journal précédent, la compétition entre à droite Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, elle est évidemment très passionnante parce que ça nous renvoie un petit peu à une configuration à l'ancienne, où effectivement, le vainqueur de cette compétition pourra apparaître comme possible présidentiable.
Mais alors est-ce qu'on n'a pas quand même un problème structurel en fait, parce que la fin de la domination des partis, c'est aussi la fin de la domination de beaucoup de références institutionnelles en réalité. Blanche Loridon, Christian Lebar cite à un moment donné l'histoire que j'ignorais d'ailleurs, la candidature mystère d'un monsieur X en 65, un présidentiel de 65, qui était en fait lancé par l'Express pour bénéficier à Defer. Quelque chose comme ça n'est plus possible aujourd'hui.
Non, et on voit bien effectivement que parmi les acteurs qui érigent cette présidentialité, il y a la presse, il y a les médias, et que cette autorité-là aussi, elle est d'une certaine manière déclinante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, être considéré comme le candidat des médias est plutôt quelque chose qui va en votre défaveur. Et c'est intéressant parce que si vous êtes le candidat des médias, vous êtes le candidat d'un système, et donc il y a une espèce de doute sur votre légitimité qui, dans va s'instaurer, alors qu'on aurait pu penser pendant de longues années qu'être le candidat des médias c'était plutôt une position enviable et favorable et qui pouvait booster votre candidature. Aujourd'hui, si on voit un candidat un peu trop omniprésent dans les médias, on va l'assimiler d'emblée à ce candidat du système. Donc on voit bien, on a mentionné, alors la primaire, il y a quand même un petit côté assez ambivalent parce que les Français sont toujours assez demandeurs de la primaire, parce que évidemment quand vous êtes allé dans le sens d'une progression de plus de transparence, de démocratie, c'est toujours très difficile de revenir en arrière. Je regardais les derniers sondages, on est encore à près de 8 Français sur 10 qui y sont favorables, mais en même temps, ça ne les empêche pas d'être très critiques à l'égard des partis eux-mêmes. Parmi les autres autorités que cite Christian Lebar dans son livre, donc il y a la presse, il y a les sondages préélectoraux, il y a les partis, mais il y a aussi le système de parrainage, les 500 signatures, et là encore, on a un certain nombre de remises en cause. Certains considèrent que plutôt que les parrainages par les élus municipaux et tels qu'ils sont construits aujourd'hui. Il faudrait avoir un parrainage citoyen qui serait infiniment plus révélateur de la véracité des aspirations politiques des Français. Donc on voit à quel point l'ensemble de ces autorités décernant le Saint Graal de la présidentiabilité sont aujourd'hui bousculées, et ce qui laisse la possibilité à des candidats totalement différents, peut-être, de faire irruption dans la course pour 2027.
Alors, il y a certains politiques semblent avoir anticipé ça. Je pense à Jean-Luc Mélenchon. La crise des partis politiques, il l'a en quelque sorte surmontée. On parle beaucoup de lui en ce moment à cause du livre La Meute, dont on parlera dans cette émission. Mais le fait est que la France insoumise n'est pas un parti traditionnel. Dans La Meute, les journalistes racontent qu'il explique qu'il gère tout le parti à partir de son téléphone. C'est quelqu'un qui a complètement court-circuité l'organisation des partis traditionnels, l'idée de congrès, l'idée de tendance, l'idée de présidentialité, justement.
Absolument, mais avec une forme de similarité avec le parti présidentiel, qui au départ aussi a été créé sous la forme d'un mouvement, et donc là aussi qui répond à une nouvelle forme d'appréhension du politique, avec tout de même la centralité du rôle du chef, dans un cas la figure de Emmanuel Macron au moment de la création du parti quelques années avant l'élection présidentielle de 2017, et puis ensuite la France insoumise, avec oui ce savant mélange chez Jean-Luc Mélenchon d'être un petit peu dedans, d'être un petit peu dehors, d'être dans le système dans la mesure où il a été élu, il ne l'est plus aujourd'hui, mais député, rappelle quand même sénateur socialiste aussi, et puis d'un autre côté un discours plutôt très anti-système aussi, qui lui permet de jongler de façon assez habile entre ces deux univers, de la légitimité institutionnelle classique d'un côté et de la volonté de s'en extraire et de s'en émanciper de l'autre.
Question Lebas.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Blanche Léridon. C'est-à-dire, avant, on avait des partis qui se dotaient d'un candidat, avec des règles internes, etc. Aujourd'hui, on a des personnalités politiques qui s'équipent d'un mouvement, d'un parti-mouvement, appelons ça comme ça, pour donner corps et consistance à leur candidature. Mais fondamentalement, c'est le candidat. C'est vrai pour Jean-Luc Mélenchon, ça a été vrai pour Emmanuel Macron aussi, puis c'est vrai pour plein de micro-entrepreneurs politiques, François Ruffin, Édouard Philippe, etc., qui vont créer des partis quasiment personnels, et puis qui vont éventuellement se lancer dans l'aventure, mais il voyage léger.
Un cas intéressant, c'est Raphaël Glucksmann qui fait le chemin presque inverse de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il part de l'extérieur, il essaye d'intégrer des structures existantes, des partis, plus ou moins le PS, mais lui aussi avec un pied dehors, tout en essayant de ramener le parti à lui. Enfin, c'est presque l'inverse de Jean-Luc Mélenchon, tout en étant plus ou moins en parallèle.
Oui, alors est-ce qu'il laissait le faire ou est-ce qu'on le force aussi un petit peu à le faire ? Je serais incapable de le dire, mais c'est vrai qu'on voit un mouvement intéressant. Ou aussi, moi, ce que je trouve révélateur dans le cas de Glucksmann, c'est l'obsession présidentielle. C'est-à-dire que dès lors qu'une personnalité politique sort un petit peu du lot et s'illustre, en l'occurrence là, sur des sujets internationaux liés à son mandat européen, tout de suite, on lui attribue un destin présidentiel. Et c'est un peu l'obsession maladive de notre pays, c'est de ne permettre aucune autre issue que l'issue présidentielle pour quiconque sort un petit peu du lot et arrive à s'imposer dans l'opinion. Et donc on construit parfois, malgré les candidats eux-mêmes, des destins présidentiels, alors même que certains, peut-être, n'y auraient pas songé autrement. Et donc oui, effectivement...
Je pense qu'il y a songé.
Il commence à y songer, mais est-ce qu'il y aurait songé s'il n'y avait pas eu une telle pression qu'avaient mis à la fois les médias, évidemment aussi les électeurs, parce qu'il y a eu quand même un beau succès de sa candidature aux élections européennes de 2024, mais c'est vrai que cette tendance qu'on a à vouloir prêter un destin présidentiel à tous ceux qui dans l'actualité politique de notre pays arrivent un petit peu à se distinguer des autres, ça je crois que c'est peut-être un petit peu malsain aussi, dans la mesure où il y a besoin de gens bons, de gens engagés un petit peu partout, aussi bien au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au sein du gouvernement. Et tous n'ont pas nécessairement vocation à avoir ce destin présidentiel en tête.
Et un des paradoxes français, c'est que cette ambition présidentielle va de pair avec cette recherche de verticalité, en quelque sorte, va de pair avec ce que vous dites, Christian Lebas, une horizontalité de plus en plus flagrante aujourd'hui à travers non seulement les médias mais surtout les réseaux sociaux et puis à travers ce qu'on appelle le populisme. Et ce qui est intéressant, c'est vous dites Christian Lebar que le livre reste pour les politiques français une manière de se présidentialiser, mais est-ce que c'est vraiment aussi vrai? Parce que ce qui me frappe, c'est en regardant les titres des livres des hommes politiques, en 94 on a Jacques Chirac, Une Nouvelle France. En 2007, on a Ensemble, Nicolas Sarkozy. François Hollande, c'est Changer de destin. Et même Emmanuel Macron, c'est Révolution. Mais si on regarde le titre du livre de Bardella, par exemple, qui a fait un tabac chez Fayard l'année dernière, c'est Ce que je cherche. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'affirmation d'une vision, mais on est dans la recherche de popularité, de popularité à travers une quête censément commune entre les électeurs et le potentiel leader. Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Christian Lebas et ensuite Blanche Leguédon.
Je veux bien dire un mot. Oui, effectivement, la présidentialité, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire, il faut à la fois être jupitérien et être proche des gens. Il faut à la fois jouer sur l'horizontal et sur le vertical. Donc, c'est très, très difficile de trouver le bon positionnement. Le livre... moi, je opposerai le livre aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça permet d'exister, ça permet d'être commenté au quotidien, ça permet d'être populaire, ça permet d'être visible, ça permet, bon, de monter en notoriété. Dans le cas de Jordan Bardella, ça fonctionne très, très bien. Mais je voudrais insister sur le fait que la présidentiabilité, il y a quand même cette dimension de surplomb, cette dimension d'incarnation, être au-dessus du lot, être au-dessus de la vie politique quotidienne. Et on voit que des personnalités politiques très connues, mais trop engluées dans les combats politiques du quotidien, eh bien, sont pas forcément les plus évidemment présidentialisées. Hein. Il faut plutôt prendre un peu de distance, un peu de hauteur. Et de ce point de vue-là, le livre continue à être un marqueur très très fort qui permet, eh bien, de faire une biographie historique, de réfléchir à l'histoire du pays, à la géopolitique, en s'affranchissant un petit peu du quotidien et au passage aussi du clivage droite-gauche. Donc de ce point de vue-là, je pense que le livre de Bardella n'est pas un livre de présidentiable, c'est un livre de pré-présidentiable, de quelqu'un qui a besoin de gagner en densité, en notoriété, qui a besoin de passer d'une visibilité TikTok quelque chose d'un peu plus consistant, quoi. Mm-hmm. Il est pour l'instant l'homme d'un parti, il n'a pas eu de responsabilité gouvernementale, donc voilà, on est au début d'une trajectoire quand même, hein.
Oui, alors sur le livre, effectivement, c'est tout à fait flagrant. Il n'y a pas un ou une candidate potentielle qui n'a pas sorti son livre. Voilà, de Yael Braun-Pivet à Bruno Retailleau, mais c'était un petit fascicule, c'était quand même quelque chose. En passant par Bernard Cazeneuve ou d'autres, chacun. Mais est-ce que cette figure imposée, elle joue encore vraiment un rôle important, performatif et de conviction aussi auprès des potentiels électeurs? Ça, j'en suis pas certaine. Est-ce que ces livres-là sont lus? Est-ce qu'ils sont achetés? Alors, celui de Bardella, bien sûr, il l'est et les chiffres sont très éloquents en la matière. Mais pour les autres, on peut avoir un léger doute. Et c'est vrai que si on regarde la façon dont la présidentiabilité se forge, même si j'entends que vous mettiez dos à dos les réseaux sociaux d'un côté et le livre de l'autre, j'ai quand même l'impression que l'ère du temps va plutôt dans le sens des réseaux sociaux que du livre en termes de notoriété. Il y a un exemple qui, pour moi, est absolument flagrant de ce point de vue-là. Alors, je l'emprunte non pas à la situation politique hexagonale, mais à la Roumanie. C'est le cas de Calin Georgescu, vous savez, ce candidat qui a réussi, alors que c'était un inconnu absolument parfait, quelques mois avant le premier tour du scrutin présidentiel roumain en fin d'année 2024, et qui est arrivé premier au premier tour en faisant entièrement campagne sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui n'a pas fait un seul tractage sur les marchés, qui n'a pas du tout tout livré de campagne physique et qui a réussi, alors évidemment avec l'aide des Russes, semble-t-il, puisqu'il y a des soupçons d'ingérence très très forts sur cette campagne, mais n'empêche, les gens qui ont vu Kaline Georgescu sur les réseaux sociaux ont été convaincus par ce qu'ils ont vu et la seule perception via les réseaux sociaux leur a suffi à forger cette présidentialité-là. Alors certes, c'est un contexte qui est très différent, mais je crois qu'aujourd'hui, et l'exemple de Jordan Bardella, il est là aussi révélateur. Certes, il y a le livre, mais il y a aussi les millions de followers sur TikTok et les autres réseaux sociaux. Et vous disiez cette capacité à incarner le surplomb, mais qu'est-ce que c'est Jordan Bardella sur TikTok ? C'est un jeune homme qui mange des bonbons en sortant de meeting. Et ça, ça parle énormément à plein de gens. Ils se disent, ah ben oui, finalement, le surplomb, c'est important, mais quelqu'un qui pense comme nous, quelqu'un qui peut se livrer à des activités triviales comme déguster des bonbons, je le cite parce que c'était vraiment récurrent dans ses vidéos pendant la campagne des élections européennes. J'ai plutôt l'impression que c'est ça aujourd'hui qui convainc et qui séduit que sa capacité à prendre un petit peu de recul et à livrer une interprétation personnelle des évolutions de la Ve République et de là où lui se situe.
Christian Lebas.
Oui, j'ai un petit désaccord amical. Je pense qu'il faudrait distinguer entre popularité et présidentiabilité. Je suis entièrement d'accord sur tout et le cas roumain est vraiment à la fois fascinant, inquiétant et quand même très très peu transposable à la France, me semble-t-il. Enfin, je veux l'espérer. Mais dans le cas français, bon, les réseaux sociaux, ça fabrique de la visibilité et de la popularité, ça peut créer de la sympathie, etc. Mon hypothèse, c'est quand même que la présidentiabilité, c'est un peu autre chose. Et même si, effectivement, les livres sont pas tellement lus, ils sont quand même beaucoup commentés, ils participent d'une sorte de légitimation de ceux qui les signent, voire qui les écrivent. Et voilà, donc il s'agit de gagner en densité, il s'agit de d'enfiler le costume présidentiel par anticipation. Et ça, je ne pense pas que les réseaux sociaux soient de nature à fournir ce type de capital politique. Alors, ça peut changer, hein. J'entends tout à fait que les choses changent.
Alors, pour vous mettre d'accord, je me demande si la question n'est pas d'interroger le statut du livre. Est-ce que c'est pas le statut lui-même du livre qui a changé? C'est-à-dire que François Mitterrand passait réellement pour un écrivain. Personne ne pense que Macron ou que quiconque, qu'aucun des politiques qui publient des livres aujourd'hui ne prétendent être des écrivains. Et un exemple presque caricatural. Pardon ?
Bruno Le Maire, quand même.
Bruno Le Maire, un peu, oui, mais enfin bon, là on va peut-être pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai. Mais un exemple intéressant, c'est aux États-Unis, Donald Trump et The Art of the Deal. Le livre de Donald Trump est vraiment lu par les partisans de Donald Trump, évidemment, mais il est lu très sérieusement et c'est à peine un livre en même temps.
Alors, je crois que si ce livre-là est lu, c'est aussi pour essayer de comprendre et de trouver une logique dans le comportement très erratique de Donald Trump depuis qu'il a... Parce que tout le monde est un petit peu démuni face à la façon dont il conduit la politique aux États-Unis et tente de trouver des réponses dans la seule somme qu'il a produite et qui pourrait donner un certain nombre d'indices. Peut-être un livre qui me semble encore plus intéressant, moi, c'est celui de son vice-président Gilles Evans.
Oui.
Son autobiographie qui est absolument fascinante. Et s'il y a un personnage peut-être plus complexe et avec un avenir politique aussi, à mon avis, qu'il va falloir suivre aux États-Unis, c'est vraiment celui de Gilles Evans.
Oui, effectivement. Alors, une question qui est intéressante à propos des livres, c'est... on reproche beaucoup à Jean-Luc Mélenchon son autoritarisme, son manque de sang-froid, le livre qui vient de sortir, La Meute, lui taille un portrait terrible. Mais on peut se demander dans quelle mesure ça ne joue pas en sa faveur. Par exemple, Cyril Hanouna a déclaré sur Europe 1, a soutenu littéralement Jean-Luc Mélenchon depuis la sortie de La Meute, et je ne pense pas qu'il soit nécessairement le seul. Il y a une espèce de l'idée que finalement, il est, quoi qu'il fasse, il est authentique en quelque sorte. L'idée que Jean-Luc Mélenchon est un politicien authentique, même s'il se conduit comme il se conduit, cette valeur d'authenticité qu'on retrouve également chez Donald Trump, quoi qu'il fasse, et chez d'autres, est-ce que c'est pas le critère qui est privilégié en fait aujourd'hui ?
Authenticité et puis aussi posture victimaire. On sait à quel point... pourquoi est-ce que tout le monde s'en prend à moi ? Si je suis une victime de d'une telle façon-là, c'est bien parce que les autres ont peur de moi. C'est bien parce que le système veut m'écarter. Et ça, c'est quelque chose aussi qui relevait de la rhétorique du Front National, puis du Rassemblement National pendant de très longues années. C'était de dire, mais regardez, le système ne veut pas de moi, ils ont peur de nous, ils veulent nous marginaliser, ils veulent nous mettre à l'écart. C'est bien qu'ils ont compris qu'on représentait une alternative. Et donc ce discours-là, effectivement, il est assez populaire. Et effectivement, alors j'ai pas regardé depuis la publication de l'ouvrage si ça avait eu une quelconque incidence au sein de l'électorat insoumis, mais j'en doute, effectivement. Mais par contre, effectivement, de pouvoir s'ériger en victime, voilà, ils sont obsédés par moi, et puis se revendiquer aussi d'une forme d'authenticité. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais prétendu être un grand sage d'un calme olympien, partisan d'une très grande démocratie interne au sein de son mouvement. Donc c'est vrai que tout ça, à mon sens, ne risque pas de lui être trop préjudiciable, en tout cas au sein de sa base. Après, la réflexion, et c'est la même chose pour le RN, c'est un petit peu la même chose quand on s'intéresse au procès de Marine Le Pen. Peut-être que sur la base, ça va avoir des effets limités. Et là, en l'occurrence, on le sait, hein, pour le Rassemblement National, que les affaires judiciaires n'ont aucune incidence pour l'instant sur la popularité ni du parti, ni de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Par contre, sur leur capacité à élargir cette base-là, là, bien sûr que ça va être beaucoup plus problématique. Et dans le cas d'un second tour, parce que là, les premiers sondages, alors dont il faut évidemment se méfier, hein, à 2 ans de la présidentielle, et notamment les sondages de second tour, mais c'est là où tous ces éléments-là peuvent leur porter préjudice.
Christian Lebas, vous l'écrivez dans le livre, hein, le modèle du président impassible de Gaulle, dont ses proches disaient qu'il ne l'avait jamais vu pleurer, Mitterrand, qui était surnommé le Sphinx, adossé à un idéal tout à la fois aristocratique, institutionnel et politique, a perdu en rigueur, et on valorise la sensibilité, la sincérité, et moi j'ajouterais effectivement, comme Blanche Leridon, l'authenticité au moins autant que la sincérité, et donc la possibilité d'être une victime et de se montrer victime.
Oui, alors je suis tout à fait, je crois beaucoup à cette dimension d'authenticité, qui au passage est aussi une façon de marquer la rupture par rapport à la grammaire traditionnelle des partis politiques. Hein. Les partis politiques, c'est un univers de rôles, c'est un univers de masques, c'est un univers de leaders qui sont aussi des porte-parole, donc qui parlent au nom d'un collectif, donc des gens qui ne s'appartiennent plus tout à fait. Bon, la politique professionnelle, globalement, elle est perçue comme l'univers du mensonge, de la langue de bois, etc. Donc, la carte que vont jouer les gens qui sont extérieurs au champ politique, ou en tout cas qui sont un peu périphériques, c'est de dire, nous sommes authentiques. Et effectivement, dans le petit travail que j'avais fait sur les émotions en politique, ça m'avait beaucoup frappé. Comment est-ce que, par exemple, les colères de Mélenchon peuvent être lues à la fois comme un indicateur de faible présidentiabilité, hein, sous-entendu, on va pas confier le feu nucléaire à un type qui pique des crises comme ça, mais en même temps, ça peut être tourné en qualité sur le mode, bon oui, il est sorti de ses gonds, mais c'est bien la preuve que il est absolument authentique, il souffre vraiment avec les démunis, voilà, c'est pas une empathie de façade, et de ce point de vue-là, l'histoire des larmes en politique est aussi assez intéressante, puisque aujourd'hui, ça pleure beaucoup dans le champ politique, alors qu'il y a quelques décennies, c'était impensable.
Mmh. Oui, il y a cette idée que le charisme vient de la nature de l'individu et plus de ses compétences. Il y a quelque chose de presque magique, c'est-à-dire que le leader devient, on l'a vu au moment de l'élection de Trump en 2016, certains des partisans de Trump disaient, on sait qu'il ment, mais il est authentique. C'est quelque chose de fascinant.
Fascinant, oui. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les injonctions aussi assez contradictoires autour de la figure du présidentiel, qui doit être à la fois en surplomb et en même temps qui doit être proche des citoyennes et des citoyens, qui doit incarner verticalité et horizontalité, qui doit se montrer sans trop se montrer. Donc on voit bien à quel point tout ça est difficile à démêler. Et oui, il y a... quand même, il y a, je crois, aujourd'hui, une dynamique qui va plutôt dans le sens de cette authenticité, de recherche d'authenticité, précisément pour incarner une forme de rupture aussi avec ce qu'on a connu jusqu'à présent, dans une période quand même, il faut le dire, en France, mais pas uniquement, de graves crises de légitimité. Je mentionnais les chiffres du baromètre de la confiance politique qui sont vraiment très très préoccupants de ce point de vue-là.
Et quand Cyril Hanouna défend Mélenchon, c'est sur ce mode, hein, c'est sur le mode la brutalité, c'est normal, ça fait partie de la nature des hommes forts. C'est quelque chose qui résonne dans un lieu où dans un pays où 33% des jeunes sont susceptibles d'être attirés par la droite radicale. Oui, Christian Lebar.
Oui, moi je fais l'hypothèse qu'il y a une sorte d'affrontement entre deux grandeurs, la grandeur du monde des institutions, la grandeur du institutionnel, ce qu'on peut appeler la grammaire institutionnelle, qui valorise les rôles, le contrôle des émotions, et puis une grammaire alternative qui est celle des médias, et quand je dis les médias, c'est au moins autant la télé que la télévision, que les réseaux sociaux, qui a, et votre référence à Cyril Hanouna évidemment est intéressante de ce point de vue-là, hein, qui a poussé à son paroxysme la spontanéité, le droit de dire tout et n'importe quoi comme ça vient, le refus à peu près total de tout ce qui est contrôle institutionnel, et le politique est pris dans l'affrontement entre ces deux univers. On sait que les politiques fréquentent la télé depuis longtemps, mais ils sont en quelque sorte pris dans ces deux grandeurs-là.
Alors je voudrais finir sur une question, parce qu'une des sources de la légitimation jusqu'à présent, c'était le recours à l'international, c'est-à-dire la capacité pour les hommes politiques d'avoir des contacts à de très haut niveau pour pouvoir résoudre les grands problèmes du monde. En 2006, Christian Lebar, vous rappelez la visite de Nicolas Sarkozy à Washington, qui était uniquement ministre de l'Intérieur à l'époque et chef de l'UMP, et il avait réussi à obtenir une poignée de main de la part de George Bush, et ça avait été lu par Le Monde, notamment, comme un tournant au moins médiatique. Nicolas Sarkozy s'est affirmé en présidentiable à la stature internationale, écrivait Le Monde. 20 ans plus tard, est-ce que c'est encore vrai? C'est-à-dire que on a l'impression que le populisme atteint une limite. À partir du moment où tout le monde devient populiste, où tous les leaders fonctionnent à l'horizontale, même Trump cherche désespérément une légitimation en essayant de régler une guerre en Ukraine qu'il n'arrive pas à régler. Au Moyen-Orient, il n'y arrive pas non plus. Plus personne ne cherche vraiment à aller à Washington serrer la main de Donald Trump en ce moment, quoi.
Non, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, dans le contexte international actuel, et d'ailleurs on le voit avec la popularité d'Emmanuel Macron qui grandit du fait de la crise ukrainienne et du retrait américain, précisément parce qu'il arrive à se positionner dans le jeu international, à y être crédible, à y être entendu. Moi, selon moi, ça joue encore beaucoup. Et c'est là, par contre, où on voit à quel point les rôles se sont inversés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les LR ou le Parti Socialiste, vous avez énormément de mal à les identifier parmi des réseaux internationaux, que ce soit au sein des socialistes européens ou même la force de frappe de la droite française au sein du PPE, le Parti Populaire Européen, donc le groupe de droite au Parlement européen. Par contre, vous voyez que le Rassemblement national peut désormais se targuer de relais internationaux. C'est pas anodin, la visite de Marine Le Pen au Tchad, la visite de Jordan Bardella en Israël, tout ça participe aussi, on se dit, ah ben tiens, s'ils vont là-bas, le fait qu'ils soient si unis désormais au sein des Patriotes pour l'Europe, leur groupe au Parlement européen où ils s'étaient tous réunis à Madrid, ça, selon moi, participe quand même d'une forme de légitimité dont ne bénéficient pas leurs concurrents.
Christian Lebar, un dernier mot.
Oui, on sera d'accord sur le fait que le contexte international, les tensions internationales, effectivement, font que ceux des candidats ou des personnalités politiques ou des présidentielles potentielles qui disposent de ce capital-là, c'est-à-dire le fait d'avoir un petit peu bourlingué, d'avoir un peu une image au-delà des frontières de l'Hexagone, évidemment, ça devient une ressource importante. C'est pas tout à fait un hasard si Dominique de Villepin revient dans le jeu politique, si son nom est cité depuis quelques semaines, alors qu'on pouvait penser qu'il était plutôt sorti du jeu. Donc il y a aussi des effets de conjoncture qui mais l'international a toujours été une source de, voilà, a toujours été un des critères par lesquels les commentateurs, sinon l'opinion publique, mais en tout cas les commentateurs, évaluaient les candidatures en disant il est inconnu, etc. Et vous parliez tout à l'heure de Raphaël Glucksmann, le détour par les institutions oui. européennes est aussi une forme de capital politique intéressant.
Oui, mais compliqué à gérer.
Compliqué à gérer.
On va s'arrêter là pour cette émission d'étape sur la présidentiabilité. Voilà, merci Christian Lebar. Je rappelle le titre du livre « Présidentiable » aux presses universitaires de Rennes. Merci Blanche Léridon d'avoir été avec nous. C'était « Signe du temps », une émission de Marc Wetzmann, assiste de Aurélie Marseille, avec à la technique Alexandre Dang et à la réalisation Fanny Constance.
France Culture.
Je mets aux voix la proposition qu'il vient de faire au comité central. Ceux qui veulent bien l'adopter veulent bien lever la main.
De 1952 à 1994, le PCF enregistre chacune des réunions du comité central.
Chers camarades, je veux d'abord dire mon accord total avec le rapport qui a été présenté par le camarade Raymond Guillaume.
LSD, la série documentaire Les voix du PCF, archives sonores du communisme français, d'Antoscan Viudès, réalisée par Anne Fleury, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les éditions Radio France présentent
Un été avec Alexandre Dumas.
Un livre de Jean-Christophe Ruffin.
Rendons hommage à ce conteur ébouriffant qui est mon frère de plume. Homme d'épée et de cœur, sa vie fut un roman. Ses voyages, ses succès, ses défaites et ses amours ont fait l'étoffe de son œuvre. Avant d'écrire, il avait tout appris de la vie.
Un été avec Alexandre Dumas de Jean-Christophe Ruffin, un livre France Inter.
Et tout de suite, une histoire particulière.
Southern trees that strange fruit.
Les cadavres pendaient aux arbres comme des ornements pourrissants.
Blood on the leaves.
Certains étaient nus, d'autres à demi vêtus, le fond de pantalon noirci d'excréments, attestant que leurs intestins s'étaient vidés à l'instant où leur nuque s'était rompue.
Black body swinging in the southern trees.
Harriet Tubman, la Moïse noire de l'Amérique. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre.
From the poplar trees.
Underground Railroad, c'est le chemin de fer, le chemin des fugitifs, la voie suivie par des Noirs pour s'échapper des États du Sud, mais c'est aussi le titre d'un roman de Colson Whitehead, auteur américain qui a donc reçu pour ce roman le National Book Awards en 2016, le prix Pulitzer littérature en 2017. Et c'est vous, Serge Chauvin, qui avez traduit cet opus majeur dans son œuvre.
C'est quelqu'un qui est de ma génération, qui est né en 69, noir, new-yorkais, très citadin, très contemporain. Et même si l'histoire a toujours travaillé ses romans, là, il y avait un choc nouveau dans ce texte, lié à son ancrage historique, au faussement historique, et aussi une sorte de resserrement vraiment sur le personnage de l'esclave fugitive, Cora, et une sorte d'urgence, de rage sèche de l'écriture, Et il y avait quelque chose de vraiment saisissant, avec une violence d'autant plus bouleversante, celle des lynchages, celle des tortures infligées dans les plantations, etc., qu'elle était décrite très froidement et vue par un personnage qui n'a pas le temps de s'apitoyer.
D'horribles plaies et blessures marquaient la chair des deux corps les plus proches, ceux qu'éclairait la lanterne du chef de gare. L'un avait été castré et une bouche hideuse béait à la place de